Moi, c'est André de Mbujima, au Kata Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Parole aux auditeurs vous propose ce nouveau numéro autour de la problématique de la désignation des membres de la CENI. Le président Félix Tshisekedi a affirmé dans une interview accordée à la semaine dernière à la Voix de l'Amérique qu'il a refusé l'invitation de l'Église catholique ainsi que de l'invitation de l'Église du Christ au Congo pour rechercher le consensus autour de la désignation des membres de la CENI. Le chef de l'État estime qu'en cas de blocage persistant, il souhaiterait voir seuls les élus se prononcer là-dessus parce que lui, il n'a pas l'intention de devenir religieux. Quelques jours après cette déclaration de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Christophe Mboso Kodiampanga de la Chambre basse du Parlement a accordé à nouveau aux confessions religieuses un délai de 72 heures pour désigner ou dégager le consensus autour de ces dossiers. Alors comment commentez-vous cette actualité ? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Notez que vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net ou encore sur notre page Facebook. Jocelyne Mukendi et Dieudonné Nyangasa concourent à la production et à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Labung, Angie. Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir, le réel plaisir d'accueillir en ligne notre invité, le révérend pasteur Eric Senga. Pasteur, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous êtes le porte-parole de l'ECC et membre de la plateforme de confession religieuse. Comment avez-vous accueilli la position du chef de l'État qui a affirmé clairement d'avoir refusé l'invitation de l'Église catholique et de l'ECC?
Bon, nous saluons d'abord les auditeurs qui nous suivent à ces magazines importants. Nous disons que la réaction de l'Église du Christ au Congo, quant à ceux, a été normale. Nous pensons comprendre dans quel contexte nous sommes et dans quel contexte le chef s'est prononcé. Le plus important pour nous était de retenir, au-delà de ce qui a été dit, que l'ECC, la CENCO, comme vous l'avez signifié, n'ont pas été reçus. Mais je pense que lui-même, le chef de l'État, a encore souligné qu'en fait, il nous avait reçus. Donc, peut-être qu'il faille faire la différence entre être reçu officiellement et ne pas l'être officiellement. Mais le plus important pour nous, c'était seulement d'être reçu par... L'important pour nous était d'établir un pont de communication entre nous et le chef de l'État, parce que le message dont nous avions voulu faire passer était réellement passé. Et c'était le plus important. Et également, il a eu le temps de donner aussi ses avis et considérations sur la question. Donc, pour nous, l'essentiel était fait. Ce qui a eu cette communication avec le chef de l'État, et j'aimerais préciser, pas comme personne, Félix Tshisekedi, mais comme institution président de la République, parce que lorsque nous l'avions saisi, c'est sur fond de l'article 69 et 70 de notre Constitution. Donc, j'allais dire 68 et 69. Donc, nous l'avons saisi comme institution président de la République et non comme personne, Félix Tshisekedi. Donc, pour nous, l'essentiel était à ce niveau-là, que le message passe, qu'il entende ce que nous avions besoin de faire entendre et que nous entendions également ce qu'il avait comme avis et considération. Et ensemble, les options étaient dégagées et je pense que les résultats sont en train d'arriver.
Alors, 72 heures supplémentaires pour dégager le consensus. Vous vous êtes retrouvé à nouveau avec les six autres confessions religieuses. Alors, qu'est-ce qui en est sorti de votre rencontre le week-end dernier?
À vrai dire, nous n'avons pas encore achevé les travaux, puisque les 72 heures qui avaient été souhaitées par le président de l'Assemblée nationale avaient pour objet de nous inviter à un consensus au regard de tous les échecs que nous avions observés dans les tentatives de conciliation des vues et des consensus. Et donc, mais quand nous sommes arrivés, je crois que vous avez suivi les déclarations des uns et des autres, jusqu'à preuve du contraire, nos amis, nos frères avaient donné un point de vue selon lequel ils souhaitaient nous convaincre, ce sont leurs dires, de pouvoir nous inscrire dans la démarche qu'ils avaient entamée et qui a eu comme pierre de touche les documents qu'ils ont qualifiés de PV et qu'ils estiment avoir déposés régulièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, nous nous avions fait savoir qu'il n'était pas le cas parce que nous n'avions pas pris part à ces travaux. Parce qu'il faut ici rappeler que lorsque l'opinion pense qu'il y a eu vote au sein des confessions religieuses, où se dégage dans les narratifs des uns des autres l'idée qu'il y aurait, l'idée qu'il y aurait une majorité d'un côté et l'opposition de l'autre, je vais tout de suite corriger cela. Et donc, au sein de la plateforme, pendant nos réunions régulières, nous n'avons jamais procédé au vote ni obtenu les consensus. Nous avons été bloqués au niveau de l'appréciation des candidatures. Mmh. Et donc, jusqu'à ce que nous nous séparions. Voilà pourquoi il a été sanctionné par un rapport qui stipulait clairement l'absence du consensus et du vote lors des assises. C'est après que les amis se soient qui se retirent de l'autre côté qu'ils ont fait ce travail. Qu'ils ont établi les documents que nous n'avons jamais vus, nous ne connaissons ni l'écriture, ni les fonds, ni les personnes qui ont été désignées. Et donc pour nous, le fait que ce travail soit fait en dehors du cadre légal, donc en dehors de la plateforme, et que ça ne soit pas la personne habilitée à établir le PV, donc les rapporteurs, pour nous c'était du non-vu, non-entendu. Mais ils ont toute la liberté, nous sommes en démocratie. Qu'ils se décident d'aller déposer ces documents au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça c'est leur liberté. On ne pouvait pas les leur empêcher. Mais que de là déduire que c'est un travail qui nous liait et qui faisait état d'une minorité face à une majorité, là c'est peut-être là où il y a des petits soucis et nous tenons vraiment à corriger cela. Il n'y a jamais eu cet exercice. Donc pour nous, nous avions dit, puisque nous étions bloqués, l'essentiel de cette invitation de l'Assemblée aurait été, à la lumière de l'article 12 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, à son point 5, il est dit clairement, lorsqu'il n'y a pas entérinement d'un candidat issu d'une composante, les bureaux restituent les dossiers à la composante afin de réouvrir les débats et proposer une nouvelle candidature ou un nouveau candidat suivant la même procédure. Pourquoi l'article 12 ? Je voudrais rappeler que lors des débats sur la réforme, il était inscrit que, en cas de non-consensus, soit l'Assemblée nationale qui entérinerait. Mm-hmm. Mais c'est à force de discuter qu'on a fait comprendre que l'Assemblée nationale n'avait que compétence d'entérinement et donc elle ne pouvait pas se substituer en juge et partie. Voilà pourquoi on a retiré cette compétence à l'Assemblée nationale et restitué à la composante. Ce qui donne aujourd'hui l'hypothèse, s'il n'y a pas entérinement, l'Assemblée n'a que à restituer les dossiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a restitution du dossier, ça suppose que le premier dossier tombe caduc. C'est-à-dire qu'il y a abrogation de la première démarche pour ouvrir la possibilité à une nouvelle démarche. Mmh. Donc on ne peut pas à la fois considérer que ce qui a été fait avant soit valable, en même temps nous demander de trouver consensus. Soit on dit que le document qui est déposé est valable, alors nous passons à autre chose, mmh. ou alors on reconnaît que le document n'est pas valable, on réouvre les débats pour régulariser la procédure. Or, le cas échéant, le document qui est déposé n'est pas valable parce qu'il n'est pas légal, je viens de le démontrer, que ce soit sur la base des articles 10 et 12 de la loi électorale, que ce soit la loi sur la CENI, pardon, que ce soit sur la base des articles 8, 16, 17 et 18 de notre propre charte, ces documents sont à l'encontre de ces normes. Donc du coup, il est illégal, on ne peut pas statuer ni s'inscrire dans la démarche de ces documents.
Alors les 72 heures expirent quand?
En principe, c'est aujourd'hui lundi, je crois que vous avez suivi notre communication. Nous avions dit qu'il était intéressant de nous retrouver aujourd'hui parce que le président de la plateforme qui se trouve être le président de la CENCO est arrivé le même samedi dans les après-midi. Donc il est venu pour ça. Mais nous sommes étonnés d'apprendre ça et là que les six confessions ont décidé de ne pas se présenter. Bon, nous allons observer jusqu'à leur contenu. S'ils ne se présentaient pas, nous allons tirer des conséquences qu'ils ont refusé de continuer de poursuivre les travaux et de les clôturer. Mais quant à nous, nous serons là Nous avons estimé que c'était le premier jour. Nous avons discuté librement et démocratiquement. Les avis ont été donnés. Nous espérions continuer les travaux aujourd'hui et les conclure. Et donc, nous allons observer s'il ne venait pas. Donc, ça sera considéré comme la conclusion des travaux sur la base des non-consensus autour de l'interprétation de la correspondance du président de l'Assemblée nationale.
Alors, vous aviez échangé en même temps avec l'ambassadeur des États-Unis. En tout cas, quand j'ai dit vous, c'est la CENCO et l'ECC, autour de cette question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, si ce n'est pas un secret?
Pas seulement l'ambassadeur des États-Unis, M. Mike, mais il y a beaucoup d'autres diplomates. Il y a l'Union européenne, il y a une grande délégation qui est venue de l'Union européenne, il y a d'autres diplomates. Je voudrais préciser que la participation des ambassadeurs n'avait pas comme objectif d'interférer aux affaires nationales ou de donner des injonctions. D'ailleurs, la preuve est là. Nous avons discuté les samedis sans trouver conclusion. Si nous étions tous aux ordres d'un ambassadeur quelconque, on aurait trouvé conclusion. Donc je pense que la démarche des diplomates qui sont nos partenaires importants, il ne faut pas l'oublier, était juste ce souci-là d'exprimer la voix de la communauté internationale, les inquiétudes, de voir finalement ces processus arriver à terme au fin de faciliter les choses à avancer. Donc c'était vraiment dans le cadre de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, où nous pouvons aider, est-ce qu'on ne peut pas trouver des consensus. Et de notre côté, nous avons assuré à tous les diplomates, qu'ils soient africains ou occidentaux, nous avons bien dit qu'il y a des garanties de bonne foi. De notre côté, nous avons même proposé à retirer certains candidats. Nous avons demandé à nos confrères de proposer d'autres candidats pour justement élaguer cette hypothèse où on penserait que l'ECC et la CENCO seraient en train de vouloir imposer leurs candidats. Nous avons dit non. Le problème, c'est que nous ne nous sommes pas mis d'accord autour d'un candidat sur base des éléments d'appréciation. Si nous voulons aller au consensus, il faut des garanties de bonne foi. De notre côté, voilà les garanties de bonne foi. Nous vous donnons l'occasion, proposez-nous d'autres noms. Beaucoup aujourd'hui parlent des candidatures féminines. Si c'est le cas, faites-le. Nous allons accompagner pourvu d'aider les processus à avancer. Malheureusement, c'est le refus total qui est de l'autre côté. C'est le candidat ou rien. Donc un candidat de vie ou de mort. Et nous ne comprenons pas jusque-là comment tout un pays comme le Congo ne peut avoir qu'une seule personne à mesure d'organiser les élections, et ça reste encore un sujet à caution.
Voilà, nous allons vous garder en ligne, le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont désiré de participer à ces débats, à cet échange citoyen. 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes à Kisangakwa ou à Magui. Sylvain, Idji, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Quel est votre commentaire, s'il vous plaît?
Oui, par rapport à ce sujet, je condamne vraiment le refus du président de la République sur l'invitation de laïcs catholiques et l'ECC. D'autant plus que le président de la République est l'unité de la nation. Nous sommes dans un État uni et indivisible. Lui-même est le symbole de l'unité, et c'est ça. Alors, il y a une opinion qui est diversifiée. Et lorsqu'on saisit le président de la République, ça serait une opportunité pour lui-même de les écouter et les conscientiser, pourtant qu'il y revienne maintenant au consensus. La RDC, 60 ans après, ne peut pas se prétendre être jeune démocratie. Donc, il faudrait maintenant prôner les valeurs démocratiques pour que le troisième cycle électoral soit des élections qui reflètent réellement les valeurs démocratiques. Alors, ça serait opportun pour lui d'être en contact avec toutes ces composantes-là, les écouter, échanger avec lui et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir au consensus. Alors, refuser carrément de les écouter, partager avec lui, là vraiment c'est agir en tort et en travers. Alors, c'est que moi, je constate la sagesse, vraiment, je salue la sagesse du président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Mmh. Et qui accorde encore le délai de 72 heures aux laïcs catholiques de se mettre d'accord aussi un certain nombre de choses à la destination maintenant du président de la CENI. Et là, c'est une sagesse à saluer.
Oui, mais dans votre commentaire, vous avez souhaité, en cas de blocage persistant, que la société civile de toutes les 26 provinces puisse se prononcer pour passer à l'élection du président de la CENI.
Oui, je voudrais revenir par là pour dire que non, les laïcs catholiques doivent d'abord savoir qu'ils sont des religieux, nous avons conviction à eux, que lorsqu'ils sont d'accord aussi sur un candidat quelconque, cela reflèterait même l'esprit spirituel de Dieu qui voudrait maintenant envoyer un Moïse qui
va sauver le peuple d'Israël.
Délibérer maintenant les Israélites de la servitude de l'Égypte. Alors, ils doivent s'en donner beaucoup plus pour la prière, pour que qu'ils fassent de leur mieux pour qu'on aboutisse maintenant au résultat, au consensus
dans la désignation. Merci beaucoup.
Mais maintenant, quand ils se divisent, ça pose encore
un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. On ne peut pas aller plus loin. Alors, Marie-Paul est là. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marie-Paul.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à votre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette question?
Merci, monsieur le journaliste. Je note que le système politique et démocratique repose entre sous le respect et l'observance stricte des lois, des textes légaux. Et ce système politique, comme vous le savez bien, veut que le règne de la force des lois et non des individus, et c'est à toutes les institutions, ça peut être public ou privé. Alors, en fait, notre pays, la CENI, c'était l'un des organes d'appui à la démocratie. Et cette CENI est régie par la Constitution. Au terme de l'article 210, lorsque vous lisez cet article, vous allez voir comment on a régenté la CENI. Et il n'y a pas seulement la Constitution, il y a aussi les lois. Les lois organiques qui donnent à cet organe d'appui à la démocratie les prérogatives. Et de toutes ces dispositions légales, ça fait que la CENI agisse de facto et de jure sur toutes ces questions qui la concernent. Et même le président de la République dont on a sollicité une institution, le Parlement, c'est constitue des institutions publiques du pays. Alors, ces institutions qui sont sollicitées ne peuvent que faire allégeance à la loi, ne peuvent que se soumettre à la loi et non à d'autres choses. Parce que, comme vous le savez bien, ces institutions doivent travailler de manière à ce que la démocratie puisse avancer dans notre pays. Alors, de ce point de vue-là, je ne vois pas que ces gens-là peuvent se confondre aux individus ou le Parlement se confond à la personne de son président ou le président, l'institution président se confond à la personne de Félix Tshisekedi. Non, ils doivent agir comme deux animateurs de ces institutions afin de trouver le modus vivendi, le modus operandi de l'institution de la CENI qui est presque alimenté dans un malentendu qui est délibéré justement par les autres confessions.
Oui. Oui, lorsque dans votre commentaire vous insistez en disant que légalement les 6 confessions religieuses n'ont aucun droit de chercher à faire cautionner les deux autres leur choix.
Exactement. Légalement, lorsque nous lisons tous les textes que j'ai évoqués ici de manière lapidaire, les 6 confessions religieuses n'ont pas droit parce que le vote de la désignation du président de la CENI se passe par l'unanimité. Et s'il n'y a pas l'unanimité, les 6 autres ne peuvent pas se rétracter pour faire cautionner aux autres l'illégalité. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je pense que nos dirigeants doivent, les 6 confessions, les dirigeants de cette
voilà. En cas de blocage persistant, le chef de l'État a déjà, s'est déjà prononcé quant à ce, en disant que seuls les élus du peuple vont trouver une solution. Et pensez-vous pas que, avec la position des 6 confessions religieuses, qui insistent qui persiste et signe qu'ils n'ont qu'à convaincre les deux autres à entrer dans leur logique, c'est-à-dire les candidats qu'ils proposent, et ils se proposent aujourd'hui déjà de déposer leur PV, et les élus vont entériner.
Moi, je pense que c'est jouer les jeux de politique. C'est jouer les jeux de politique, et ils n'ont aucun soubassement légal pour imposer aux autres, parce que déjà au départ, j'ai entendu l'invité qui a dit, c'est déjà au départ, il y a déjà un mauvais précédent qu'on a créé. Il y a déjà un mauvais départ. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi moi j'invite plutôt les institutions de la République à amener de beaux offices auprès de ces confessions religieuses. Ils ne sont qu'à 8, mais nous avons beaucoup de confessions religieuses. Si la loi a prévu 8, c'est pour éviter ces gens de toi que nous connaissons. Et je pense qu'on doit amener de beaux offices les autres institutions.
Donc il faut des beaux offices. Merci beaucoup. Une médiation qui pourrait vraiment trouver pour permettre à ce que le consensus soit dégagé. Merci beaucoup Marie-Paul d'avoir appelé de Kisangani. Alors on vous reçoit, on vous accueille également. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Alors comment commentez-vous ce qui se passe autour de la désignation de membres de la CENI par la plateforme de confession religieuse?
Vous savez, hier, ça fait déjà plusieurs fois que nous débattons de ce sujet. Mmh. Et à l'allure où vont les choses, vraiment, le pays va vers une situation là un peu confuse. Et je pense à mon avis que, en apprenant que le président de la République a décidé de recevoir la CENCO et l'FCC, il finira par être taxé de complice.
Oui, mais parce que non, il a si bien dit, il ne voulait pas être juge et parti. Ou il ne voulait pas être injuste d'accueillir un camp et de laisser l'autre.
C'est là que je vais. Nous savons le pouvoir que la Constitution donne au président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. Et si ça bat le demain, est-ce que ce qu'il dira encore, voilà ce qui donne raison à ceux qui pensent que non, le régime en place, et en l'occurrence l'IDPS, serait derrière cette situation qui bloque actuellement au niveau de la CENI. Parce que Kadima qui cause problème aujourd'hui, on les taxe qu'il serait un haut cadre de l'IDPS. On cesse de dire que
on venait de suivre notre invité. On ne connaît ni le contenu ni le fond du PV qui a été déposé. C'est-à-dire le nom que vous, la population, vous avancez, et ce nom n'a jamais été connu de l'SSC et de la CENCO, parce que les rapports déposés par leurs partenaires, leurs frères, ne leur a jamais été communiqué.
Hier, tout le monde sait les noms que les 6 confessions religieuses ont voté. C'est Kadima. Et on ne cesse de suivre Dodo Kambo aux médias quand il ne cesse de défendre Kadima. Moi, je pense du moins honorer des acteurs politiques qui aimeraient voir la RDC décoller demain. On devait aussi, le président de la République devait prendre la décision qu'on écarte aussi Kadima. Le processus, c'est à zéro. Parce que de telle guéguerre, l'État est en train de passer. Nous, le peuple veut aller aux élections en 2023. On ne sait pas finalement on va aboutir à quoi. Voilà pourquoi moi je pense. Soit le régime en place voudrait imposer au peuple congolais un président de la CENI qui va jouer à sa faveur en 2023, si du moins l'élection aura lieu. Dans le cas contraire, le régime en place convaincu que son bilan est négatif, et cela n'engage que moi, il va jouer au Mali pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'il y ait glissement en 2023. Voilà pourquoi on veut créer une imbroglio, et ça sera une manière de perdre l'État, et à un moment donné, on va dire allô au dialogue, parce qu'il y a blocage au niveau de la CENI, rien n'avance, il y a problème de moyens, allô au dialogue, et ça sera en faveur du régime en place. Parce que je connais la stratégie des acteurs politiques congolais. On l'a vécu avec la Kabylie. Depuis 2014, quand le pouvoir sortant a constaté qu'il n'avait plus la confiance du peuple congolais, il a commencé à jouer au malin, juste pour perdre le temps, et on est parvenu à amener tous les acteurs politiques au dialogue, et on a encore accordé à Kabange 2 ans au-delà de son mandat. Et c'est le même jeu que ce régime aussi en train de vouloir jouer. Voilà pourquoi il y a blocage. Moi, je pense que si réellement le président de la République, que je respecte, avait le souci de voir le peuple congolais aller aux élections en 2023, qu'on ait de vraies élections, pas vouloir nous imposer des candidats qui n'ont pas été réellement des dirigeants qui n'ont pas été réellement élus par le peuple. Ils devaient lui-même trancher comme garant du bon fonctionnement de tous les institutions du pays. Dans le cas contraire, il y aurait sa main noire. Et ça, il sera condamné par l'histoire et le peuple
de la. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé des Bukavu. Alors, on va prendre Simon Siloulou qui était à Matadi. Simon, vous êtes avec nous. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde et bonjour à vous également. Je pense que les Congolais, nous devons aussi apprendre à réfléchir avec des évidences en nous pour permettre à la société d'avoir une compréhension normale des choses. Il ne faille pas toujours qu'on soupçonne sur tout ce qui, finalement, en qui nous ferons confiance. Et vous verrez la République démocratique du Congo, la plupart des personnes de l'opposition ou du gouvernement, vous allez voir que nous avons tendance surtout à personnifier les institutions ou l'administration. Ce qui fait qu'on crée des hommes forts à la place des institutions fortes. Pour le cas de la CENI, je crois que la loi avait prévu des méthodes. Vous allez en consensus, allez vous-même, faites des choses selon vous-même. Vous allez en consensus. Si vous trouvez que consensus ne réussit pas, vous passez au vote. Et au vote, on sait que c'est la majorité qui l'emporte. Quand la majorité l'emporte, à ce fait-là, la minorité se lie à la majorité. Et sans pourtant que la majorité puisse empiéter la minorité. Le cas échéant en étude, vous avez vu, les gens parlent de tel parce qu'il est de tel. Il doit être la politique. Je suis parfois la Mouka El Fayoulou Mouzito qui dit que nous devons dépolitiser la CENI. Et la dépolitisation, ça, et ce contexte-là, je ne sais pas le comprendre aussi longtemps que nous avons des apolitiques comme des militaires, des policiers, et sont apolitiques. Mais les hommes, les structures, les églises sont apolitiques. Mais les personnes qui sont là ne sont pas apolitiques, ils sont politiques. Parce que dès lors que moi, par exemple, Simon Siloulou, on me met président de la CENI. Alors moi, par exemple, j'aime Fayoulou. Comme j'aime Fayoulou, je dois voter. Quand je vote Fayoulou, c'est-à-dire je suis politique puisque j'accepte la politique que Fayoulou est en train de mettre en jeu. J'adhère à sa philosophie, j'adhère à son programme. Tant qu'on ne me prive pas le droit de voter, donc je suis politique, parce que le vote c'est un droit politique. Et le président de la CENI, qui qu'il soit qui sera là,
il y aura une influence politique.
Il sera toujours politique. Parce
alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que,
pour conclure,
oui, qu'est-ce que vous proposez? Parce que les 72 heures expirent aujourd'hui.
Papa, la première étape, je propose ici. On a osé, avec notre expérimenté Malonga, c'était la situation
que nous avons connue.
Oui. Les deux, ils ont dit non, les six ont dit oui. Deuxième tour, on expérimente avec Kadima. Les deux églises disent non et les six autres ont dit oui. Et troisième, on risque de tomber toujours dans le même parce que le même format, les mêmes erreurs.
Alors, quelle est l'approche que vous proposez?
La première, c'était une erreur. La deuxième, c'est peut-être une fausse.
La troisième, vous
nous serons dans l'idiotie. Qu'on interne, qu'on puisse interroger, comme il y a consensus et vote.
Qu'il passe tous au vote.
On prend Kadima, on l'accepte comme tel, mais les partis politiques de l'opposition ou comme des mouvances, ils doivent travailler, c'est maintenant qu'ils doivent travailler, mettre en place une dynamique de surveillance, exiger la loi électorale qu'on puisse mettre dans des bureaux des appareils, même des photocopies, de telle enseigne que chaque témoin puisse avoir le PV, parce que lorsqu'on a des PV, on est rassuré. Imaginez, en 2018,
oui, rapidement,
l'opposition n'avait pas de PV,
en 2018.
En 2011, l'opposition n'avait pas de PV.
En 2018, c'était encore catastrophique.
L'opposition n'avait pas de PV. Pourquoi? Parce que les témoins ne sont pas représentés partout. Et la CENI, dans sa façon de faire, ne disponibilise pas le photocopie de PV.
Les PV pour
tout le monde. Voilà. Et c'est là où il faut travailler pour bloquer le système.
Merci beaucoup Simon Sululu. 081 890 63 30, encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs avec vous, révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'SCC et membre de la plateforme Confession religieuse. Vous avez suivi Sylvain, Marie-Paul, Amos, ainsi que Simon Tiloulou. C'est vrai, les avis sont partagés et quelques propositions ont été formulées. Alors, comment réagissez-vous, révérend Eric?
Merci beaucoup. Merci à tous les compatriotes pour leur contribution. J'aimerais rapidement rencontrer d'abord mon frère Simon. Je pense que nous devons éviter la simplification dans une situation de complexité. Je rencontre lorsqu'il dit la loi, par exemple, prévoit les votes. Je pense qu'il y a une confusion et il a bien fait de le dire. J'en profite pour corriger ces narratifs qui se glissent finalement dans l'imaginaire collectif. Ce n'est pas la loi organique qui prévoit l'obtention du consensus ou le passage au vote. Donc ça, c'est la charte. Et j'insiste sur le fait que la charte est un instrument, un arsenal juridique interne à une organisation. Donc, la charte n'a pas été élaborée pour sanctionner la procédure de la CENI. La charte existe pour organiser la manière de faire et d'être des religieux dans cet espace de collaboration, de solidarité qu'on appelle plateforme de confession religieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, je pense aussi qu'il doit faire la différence entre la citoyenneté et la politicité, si je peux le dire ainsi. Donc, faire la politique, c'est différent d'exercer sa citoyenneté. Aller voter est un devoir citoyen, ça n'a rien à voir avec être ou faire la politique. Je rencontre maintenant les trois précédents compatriotes. Je pense que l'élément commun qui sort de leurs interventions, c'est la responsabilité du président de la République. Et là, j'en profite. Je crois Sylvain l'a dit, Marie-Paul, Amos également. Il faut que ceux qui entourent le chef fassent bien leur travail. Vous savez, JR, lorsque nous parlons de l'état des droits, il y a certains postulats à la lumière desquels on évalue justement l'état des droits. J'en retiens ici trois simplement. Lorsqu'on parle de l'état des droits, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'institutionnalisation des procédures lors des décisions étatiques. C'est-à-dire, quand l'État, en tant que personne morale publique, prend les décisions, il doit s'assurer de l'institutionnalisation des procédures qui fondent la validité de ces décisions. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de l'état des droits, il faut veiller sur le principe de séparation du pouvoir. En ce moment-là, on ne peut pas dire que le président de la République a donné des instructions claires au président de l'Assemblée nationale. Parce que ces deux pouvoirs séparés, ces deux institutions, savez-vous que le Parlement, le constitutionnalisme congolais, même le chef de l'État est soumis au pouvoir de la loi. Et donc, il a un juge naturel qui est le juge constitutionnel. Troisième chose, il y a ce qu'on appelle les devoirs constitutionnels dévolus aux institutions et à leurs animateurs. Lorsque nous avons saisi le chef de l'État, nous ne l'avons pas saisi comme ECC, Senko, ou comme pasteur Bokundo et cardinal, Fridelon, ou bien Monseigneur Outembi. Nous l'avons saisi comme présidium de la plateforme des confessions religieuses, et nous l'avons saisi sur la base des articles 68 et 69, et donc comme institution président de la République. Et donc nous sommes face au devoir constitutionnel auquel il est tenu. Donc ça, c'est des éléments importants. Et donc, dire très facilement dans un média que je refusais de recevoir, je crois que c'est exposer les chefs et il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de souplesse. Et c'est des choses à corriger vite parce qu'une institution n'a pas d'émotion. Une institution n'a pas d'avis. Une institution obéit aux normes. Est-ce que cette démarche
est-elle normativement acceptable ou non? C'est ça la question. Nous aimerions entendre le chef réagir sur la base. Vous savez que le chef de l'État, étant une institution, il y a un langage institutionnel que nous reconnaissons en lui. Et donc, nous devons tous faire un effort parce que nous nous inscrivons dans la démarche de l'État des droits. Il est important que nous comprenions ces choses. Et par-delà tout, c'est lui le père de la nation. Il doit veiller à l'unité nationale. Et tout compte fait, ces dossiers arrivera sur sa table. Et donc, il ne saura pas, quelle que soit la raison ou l'issue, échapper à cela. Donc, il finira par rencontrer. Il est notre père, il est notre président. Nous l'aimons beaucoup. Je crois que c'est des mises au point importantes qui doivent aussi, surtout aider ceux qui entourent le chef et ceux qui sont à la communication et les conseils juridiques. Lorsque vous arrangez les choses pour le chef, je crois que ça vaut la peine d'éviter ce genre de désagréments. Et donc, pour le reste, je pense que je respecte les avis des uns des autres. Il est important pour nous de trouver une solution convenable. Et donc, je finis pour dire, l'article 10 est clair. Notre ami Simon disait tout à l'heure que si on a désigné les 8 par la loi, non. La loi ne parle pas de la plateforme des confessions religieuses. L'article 10 de la loi parle des confessions religieuses concernées. Pourquoi ? Parce que toutes les confessions religieuses au Congo ne sont pas forcément concernées dans ces processus. Des deux, ce ne sont pas que les 8 confessions religieuses dans la plateforme qui ont droit au chapitre. Voilà pourquoi le législateur a délimité les compétences face à la matière. À vrai dire, on peut ne pas avoir les débats de la plateforme qui ne devrait pas devenir un débat institutionnel. Le débat de la plateforme est un débat interne. Raison pour laquelle quand la plateforme veut s'engager avec les institutions sur la base de l'article 18, c'est le présidium, donc la CENCO et l'ECC qui portent. Pourquoi ? Parce que c'est la personnalité juridique de l'ECC et de la CENCO qui engage la plateforme. Les 6 confessions religieuses n'existent pas juridiquement. Ils ne peuvent pas poser un acte juridique en tant que groupe de 6 confessions religieuses. Si chacune pose un acte, par exemple, le cas échéant, je vais un exemple concret. Le candidat Kadima, pour ne pas parler de lui, est présenté par le Kimbangus. À vrai dire, même le PV dont question doit être élaboré par l'église Kimbangus, qui doit présenter sa personnalité juridique, la preuve de son expertise et de son expérience en matière électorale et la preuve de son ancrage sociologique. Ce sont là les 3 conditions fixées par l'article 10 de la loi portant organisation de la CENI. Donc, il faut qu'on évite des confusions. On ne peut pas transposer les conflits, les querelles des familles qui se passent au sein des confessions religieuses pour l'institutionnaliser et trouver des motifs pour justifier le glissement ou le retard. Non ! On ne peut pas dire que le processus est bloqué à cause de 6 confessions religieuses ou des 2. Non ! Ici, la question est de savoir, est-ce que les documents déposés par les 6 est-il valable ou non ? Légal ou non ? S'il n'est pas légal, pourquoi nous passons le temps ? On a qu'à restituer les choses.
Alors, référent, est-ce qu'on peut encore écouter les autres auditeurs et puis on revient à vous pour échanger encore. Alors, le temps d'accueillir les autres. Donc, je rappelle à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats, soit directement sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook où se tient encore les débats ici et à l'étranger. Ou carrément, vous pouvez nous appeler en direct au 081-890-63-30.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service.
Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Christian, vous êtes à Kinshasa, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour à vous, Zirbungemboué, bonjour à tous les auditeurs. En tout cas, ces cadres citoyens nous ont manqué. Aujourd'hui, nous n'avions pas voulu louper cette occasion. Et par rapport à la thématique du jour, moi, je dirais que Il faut dire que cette question des élections de 2023 se pose déjà avec acuité, parce que cette question est de plus en plus soulevée par les partenaires, les différents partenaires de la RDC à chaque rencontre avec
les ambassadeurs également. Nous avons vu la rencontre entre la CENCO, l'ECC et avec Mike Hammer et d'autres ambassadeurs également.
Évidemment. Et donc, dans toutes ces rencontres, cette question est de plus en plus soulevée, et surtout lorsque ces derniers rencontrent les chefs de l'État, la question est toujours posée, et du coup, les chefs de l'État, avec ces rebondissements, je dirais, du président Mbosso, c'est en fait l'expression même du dédouanement de cette responsabilité par les chefs de l'État, mais aussi, c'est aussi l'expression d'une certaine pression exercée par les autorités congolaises par rapport à la tenue des élections à date issue. Mais au regard, Gérard Ngembo, des positions, des différentes positions prises par les confessions religieuses, en tout cas, cela laisse planer encore quelques doutes sur, justement, l'issue heureuse de cette démarche visant notamment à doter la centrale électorale d'un nouveau dirigeant, pour ne pas dire un nouveau président. Et par ricochet, la tenue des élections au 23 décembre, sans pour autant qu'il y ait de l'histoire. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution dans les discours même de ces confessions religieuses. Vous avez écouté l'invité. Hier, il y avait en fait un discours sur, je ne sais pas moi, qu'il y avait des doutes qui pesaient, disons, les corruptions, ou encore le fait que certaines confessions religieuses ont été menacées pour apporter à la candidature de Kadima. Mais aujourd'hui, le discours a changé. Aujourd'hui, on nous parle du document qui a été déposé. Voilà qu'on soit donc. Bref, il y a une certaine, je dirais, une certaine amélioration sur le plan des discours. Mais nous voulons maintenant qu'il passe directement en acte afin de doter à la centrale électorale un nouveau président pour que nous ayons des élections au moment où, pour respecter le calendrier. Et si cela va favoriser les choses, au lieu que nous puissions encore créer un terrain de crispations et que la situation politique va
dégénérer.
Donc oui. Aujourd'hui, la volonté de tout un peuple, c'est vraiment d'avoir les élections, mais pas les élections pour les élections, mais des très bonnes élections et des élections qui seront une sorte d'un nouvel élan pour que les choses aillent de plus en plus.
Mais voilà, alors Christian, finalement, je ne sais pas, ma lecture à moi, lorsque je vois la sortie médiatique d'un groupe des membres de la communauté islamique au Congo, qui fustige le fait qu'il y ait cette irrégularité dans la représentation. Celui qui représente la communauté islamique au sein de cette plateforme n'est pas légal ou n'est pas légitime. Alors, vous pensez que cela risque encore de nous envoyer un autre rebondissement, parce que ils estiment qu'ils ont déjà ils ont saisi la justice, ils ont même écrit des lettres au niveau du secrétariat de la plateforme pour dénoncer cette affaire, sinon ils seront pas d'avis, le PV qui seront déposés soit avec la signature de ces membres-là.
Bon, déjà, il faut dire que dans cette confession religieuse, les musulmans, il y a déjà en fait une sorte de dissident. Rappelez-vous, il y a eu des échauffourées qui ont été pendant leur célébration au stade de Mapsou, il y a été des échauffourées, il y a en fait même des ailes. Mais bref, ce que nous savons, c'est que celui qui est en fait sur la table des discussions avec d'autres estime que celui-là n'est pas celui qui devrait être là. Bon, la justice est bonne. Mais sinon, je crois que si la justice donne raison à ceux qui ont porté plainte, en tout cas, cela va encore retarder les choses.
Nous disons,
pourquoi autrefois nous avions dit il faudrait dépolitiser les confessions religieuses. Est-ce que ce n'est pas les politiques qui sont derrière cette confession religieuse pour chercher à retarder les choses? Ils étaient où pendant que les autres étaient déjà sur la table des discussions pour amener cet élément pour dire voilà, c'est lui qui nous
fait. C'est lui qui l'a, il n'a pas qualité.
Il n'a pas qualité. Pourquoi avoir attendu trop de temps?
Voilà, on ne sait pas. C'est un autre rebondissement auquel on va faire face. Merci beaucoup, Christian. Alors, Edmond, vous êtes avec nous à Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Zier. Bonjour à tous les auditeurs de la radio, Cap, également à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, monsieur Gier. Je pense que j'ai suivi les débats. Ceux qui m'ont précédé également, le révérend, l'invité. Moi, je pense que, dans un premier temps, la démarche du chef de l'État, c'est une démarche qui est plausible, qui est concise, qui est claire. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, en sa qualité du garant de la nation, en sa qualité du garant, celui qui veille au bon fonctionnement des institutions, également pour le bon fonctionnement du pays, le chef de l'État, lorsqu'il constate qu'il y a des magouilles, lorsqu'il constate qu'il y a des dilatoires, il y a des démarches sordides qui tendent à bloquer l'organisation des élections en 2023, le chef de l'État a le pouvoir, non pas de donner l'ordre, mais le chef de l'État a le pouvoir de voir ceux qui ont le pouvoir de pouvoir décider. Voilà pourquoi il a déclaré que, non, si les confessions religieuses continuent avec ces dilatoires, lui-même, le chef de l'État, va pouvoir voir les élus. Il a dit qu'il va pouvoir voir les élus pour que cette situation soit décantée. Donc, le chef de l'État n'a pas entamé ou n'a pas violé le pouvoir d'autres institutions parce que c'est un souhait, c'est une proposition. Ça, c'est un, deux, deux. Mais c'est
hier.
Vous allez constater.
Oui, mais Edmond, si nous restons dans les principes d'indépendance des institutions, les institutions sont indépendantes. Le Parlement et la présidence, c'est deux institutions différentes.
Exactement. Nous avons des institutions qui sont indépendantes, mais qui marchent sous la supervision du chef de l'État. C'est lui qui est le garant de toutes les institutions. Je pense que nous avions élu le chef de l'État. Et la tenue des élections, l'organisation des élections, aujourd'hui tout le monde en parle, c'est sur le dos du chef de l'État. Voilà pourquoi le chef de l'État s'écoute pour voir en sorte que toutes les élections, d'une manière générale, soient tenues en 2023. Et ça, c'est un 2-2. La démarche des confessions religieuses, c'est tiraillement au sein de cette plateforme, ça montre que les confessions religieuses sont en train d'organiser un glissement. Où ils attendent que le programme ou le calendrier électoral soit perturbé, en fait, qu'en 2023, en décembre 2023, que nous puissions aller dans un dialogue et essayer un peu d'insérer dans la gestion du pays certaines personnes aujourd'hui qui se disent de l'opposition et qu'on sort. C'est une démarche qui tend à bloquer le processus. Voilà pourquoi moi, personnellement, si aujourd'hui les confessions religieuses ne s'attendent toujours pas, en tout cas, je soutiens le chef de l'État à pouvoir rencontrer les élus, non pas à donner les ordres, mais à les rencontrer pour que cette situation soit décantée et nous ne puissions pas avoir un glissement en 2023. Parce que la population congolaise n'a rien à voir avec les confusions religieuses. La population attend.
Mais Edmond, il faut le savoir, en réalité, nous sommes
de l'État qui sera responsable si les élections ne se tiennent pas à cette date-là.
Merci beaucoup, Edmond. Alors, Jérémy, vous êtes avec nous, à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour, monsieur Gilles. Bonjour également à l'invité. Je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Même si ce dernier continue à être tourmenté en subissant l'état vulnérable de sa jeunesse, qu'à cela ne tienne. Donc, déjà droit vers le quatrième cycle électoral, ce serait ambigu de voir ce pays traîner encore le pas pour voir un peu plus loin en termes de démocratisation. Alors, moi, je me suis dit à ce stade, je pense qu'il faut que maintenant là, que les choses puissent se tourner normalement. Je pense qu'il revient à ce stade. Parce que nous voudrions normalement que les choses soient coordonnées de manière positive. On ne veut pas faire amener le chef de l'État à violer la Constitution là où il ne fallait pas le faire. Parce que nous savons bien que les seuls lieux où tout peut se décanter pour ce qui est de la CENI, c'est bien reconnu constitutionnellement, c'est l'Assemblée nationale. Et le chef de l'État n'intervient qu'en cas de persistance, d'une crise persistante. Et alors, à ce stade, moi je me dis que on doit laisser la latitude à l'Assemblée nationale de faire son travail. Et il ne revient pas au chef de l'État de pouvoir interférer là-dessus lorsque les confessions religieuses ne s'accordent pas. Le seul arbitre, je pense que c'est l'Assemblée nationale. Et si les choses ne se coordonnent pas normalement, il faut arbitrer directement. On attend quoi? Parce que la machine électorale continue à se bloquer et il faut pouvoir, n'est-ce pas, lui donner des graisses. Et d'où viendra la graisse? C'est lorsque on pose les jalons positifs pour le bien de notre pays. Parce qu'on ne peut pas rester et se cramponner sur un camp de compréhension qui ne peut pas amener le pays à aller vers l'avant. Alors moi, je me dis, on est en train de faire du surplace. Alors, à ce stade, le chef de l'État a eu raison de le dire, qu'il faut normalement s'en remettre à l'Assemblée nationale
pour y trancher une fois pour toutes. Et je me dis pourquoi on est en train on continue toujours à accorder rallonge quant à ce point. L'Assemblée nationale doit se prononcer une fois pour toutes. Il est dit clairement, lorsqu'il n'y a pas consensus, on doit aller, on départage les deux camps. Soit par le vote, on dit, voilà, c'est elle qui sera, donc qui doit conduire donc la CENI, et on avance. Parce que nous sommes en train de se dire, à ce stade, nous sommes en train de nous dire, mais nous avançons, nous faisons du surplace, et on ne sait plus avancer. Les trains s'arrêtent.
Merci
et alors
beaucoup.
Le pays doit avancer.
Merci
et
beaucoup,
si le pays n'avance pas, ça veut dire qu'on est en train de régresser en termes de démocratisation.
Donc les vous trouvez dans cette affaire le responsable, c'est la place.
Et on doit placer la CENI le plus rapidement possible pour que le processus
pour éviter les glissements. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. 081-890-63-30 ou encore le 081-890-49-69. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous nous accordez. Ben alors, on ne saura pas prendre tout le monde. Le temps nous fait défaut. Alors, on retrouve rapidement notre invité, Révérend Pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC. Et c'est vrai, il y a une question qui a été soulevée tout à l'heure en échange avec Christian. C'est cette invitation d'une autre frange des membres de la communauté islamique qui exige aussi d'avoir clair par rapport aux membres qui représentent la communauté dans votre plateforme. C'est la risque encore de bloquer les choses.
Merci beaucoup, JR. J'aimerais commencer par l'intervention de notre compatriote Jérémy. Merci à Edmond également et à Christian. Je pense qu'il a soulevé quelque chose de très capital qui mérite un peu d'éclairage. En fait, peut-être que j'ai omis de le dire, lorsque nous avions saisi le chef de l'État en son temps, il faut préciser des choses. Ce n'est pas parce qu'on ne les rencontrait pas. Lui-même l'a dit. Il nous a rencontrés. La démarche était administrative, ça c'est un. Des deux, l'intérêt qu'il y avait dans cette procédure de saisir le chef de l'État, ce n'était pas pour qu'il exerce l'arbitrage d'un conflit qui serait au sein des confessions religieuses. Alors, nous pensons qu'il y a toute une confusion. Si nous avions saisi le chef de l'État, rappelez-vous le contexte, parce qu'il y avait des menaces d'une certaine opinion qui pensait qu'on devrait entériner. Donc, l'Assemblée nationale devrait entériner. Nous savons aussi comment même le bureau de l'Assemblée était bousculé, parce que les pressions venaient de tous les côtés. Alors, nous, la démarche n'était pas que le chef de l'État vienne arbitrer un combat. C'est quand même des grands adultes, c'est des pasteurs. Lui-même l'a dit, c'est des grands pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs qui attendaient l'arbitrage du chef de l'État. On a saisi le chef de l'État, c'était pour dire si l'Assemblée arrivait à entériner dans les conditions qui sont déplorées, eh bien, monsieur le président, nous vous alertons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette procédure? Ne prenez pas cette ordonnance parce qu'elle sera reposée sur des bases floues. C'était ça la démarche. Donc il faut que ça soit clair, qu'on ne pense pas qu'on a appelé les chefs de l'État pour venir arbitrer les conflits des religieux. Deuxième précision, l'Assemblée nationale, mon frère Jérémy, n'a pas compétence de juger. Vous lui donnez des compétences qu'elle n'a pas. Et même le chef de l'État, avec les hommages remérités, je les salue en passant, n'a pas non plus compétence de donner les ordres à l'Assemblée nationale pour dénouer la situation. J'ai relis directement ce qui vient d'être dit quelque part. On dit les chefs de l'État est les garants du bon fonctionnement. Oui, être garant du bon fonctionnement des institutions ne signifie pas être le chef de toutes les institutions. Il faut bien choisir les mots quand nous parlons du droit constitutionnel. Donc, le chef de l'État est l'animateur principal de nos institutions. Il est le père de la nation, le symbole de l'unité. Il a un pouvoir important, mais qui est limité. Donc, il faut le préciser, l'Assemblée nationale n'a que la compétence d'entériner. Pourquoi nous arrivons à tout ça? Il faut le souligner, JR. C'est là la faiblesse de la réforme apportée à la loi organique. Nous l'avions décrié en son temps. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que le Parlement doit aussi ouvrir l'œil. Qu'on arrête de faire des réformes politiques. Quant à la CENI, il faut faire des réformes techniques. Lorsque vous plongez dans les réformes politiques, en vous organisant des postes,
en vous arrangeant des choses pour occuper, suivant votre vision politique, on arrive à ce genre de choses. En son temps, l'ECC, la CENCO avait décrié que cette réforme que vous apportez à la CENI n'est pas de nature à stabiliser. On nous a crié dans tous les sens. On ne peut pas dépolitiser la CENI, mais voilà, aujourd'hui, ça nous rattrape. Le législateur lui-même est tombé dans son piège. Tout en oubliant que l'article 10 ne parle pas de la plateforme de confession religieuse, j'insiste, l'article 10 de la loi parle des confessions religieuses concernées. Maintenant, ils sont en difficulté. Comment ils vont valider la question en voulant parler de la majorité? Parce qu'il n'existe pas de majorité sociologique, il n'existe pas non plus de majorité juridique. Donc, il faut même qu'on extirpe dans le langage commun cette histoire de majorité de 6, minorité de 2. Il n'y a pas de majorité dans la mesure où les débats internes à la plateforme n'ont pas valeur opposable à tous. Parce que c'est des débats internes à une structure. Ce qui ressort de l'extérieur de ces débats, ce sont nos conclusions. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans les débats internes pour dire, par exemple, il y a la majorité, il y a la minorité. C'est ça l'erreur, parce que vous oubliez que la plateforme est un espace d'échange, de solidarité, de collaboration. Et quand nous parlons du consensus, parce que toutes les confessions religieuses qui sont dedans n'ont pas l'expertise avérée en matière électorale, n'ont pas l'ancrage sociologique, et c'est comme ça que nous nous fédérons pour que, unanimement, l'option que nous présentons soit vue comme l'option d'un corps. Donc, quand vous allez dans l'option de dire le vote, ça va vous rattraper parce que, parlant du vote, est-ce que ceux qui prétendent de voter ont-ils toutes les conditions exigées par la loi à son article 10? C'est toute la question. Donc, merci beaucoup. Je préfère m'arrêter par là. Pour la communauté islamique, ça nous inquiète aussi. Je crois que personne ne les a invités. Ça, ce sont des querelles
internes qui doivent être résolues à l'interne.
Ça ne nous engageait pas en tant que père.
Merci beaucoup, révérend pasteur Eric Senka, porte-parole de l'ECC et membre de la plateforme de confession religieuse, de nous avoir apporté cet éclairage dans ces débats. Merci et à très bientôt. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs.